Prenez une position confortable pour vous. Dans une méditation. Assurez le confort et la droiture de votre corps et la détente. Prenez quelques longues respirations. Inspirez profondément. Nous allons commencer aujourd'hui avec une réaction par rapport à les trois questions posées par Rama. Première question. Concernant Mata Amrdanandamayi, comme hier soir j'avais évoqué, le chemin de Sudhamani né dans une famille de pêcheurs. Les plages, pas très loin de Kollam, pas très loin de chez moi où je suis né. Devenu au cours des années un immense personnage. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité il y a une femme qui a fait une telle envergure au niveau de son action mondiale. Au début de mon chemin spirituel, j'avais choisi à mettre, j'ai commencé mon chemin, mon apprentissage, mes études. J'avais que 18 ans à l'époque. Quelqu'un qui me parlait d'homme. J'avais choisi le chemin de la connaissance et à moi, choisi le chemin de Bhakti. J'étais curieux, je suis allé le voir. Il avait peut-être autour de 30, entre 30 et 35 ans. Il y avait une vingtaine de personnes autour d'elle. Maintenant, ça compte des millions. Et sur place, il y avait 20 000 personnes qui cohabitaient. Cet ashram a une croissance étonnante avec des activités mondiales. Je ne sais pas, il y a un pays où elle ne va pas. Afrique, Amérique du Sud, Japon aussi, l'Europe. Je cherchais comment ça s'est passé. En vrai, sans passer sur toute forme de glorification qu'on fait, certainement. Je vais lire les questions pour vous tous. Est-ce que Dieu dans l'âme, c'est-à-dire Amaranandamayi, et la mère cosmique dont tout nous parle. Elle n'a jamais réclamé elle-même. C'est les autres qui attribuent. C'est culturel. C'est compréhensible. On voit quelqu'un qui est capable de recevoir toutes les personnes de tout horizon du monde, de tout état, malade, vieux, jeune. Je suis allé aussi, je regardais avec l'œil de moi qui avait 18 ans, que je regardais dans ses yeux quand elle m'avait pris dans ses bras. À l'époque, on touchait sur ses genoux. Elle vibrait, ses genoux. Et on pouvait poser, comme moi j'ai la facilité, elle parlait le même langage que moi. Je lui demandais, comme l'incarnation de la déesse. En fait, à l'époque, elle faisait des différentes darshanas. Elle incarnait Krishna ou Kali ou des diverses divinités. J'avais vu vraiment son visage transfiguré, qu'elle reflétait comme on a l'habitude de voir dans des images de Krishna. Son visage se transfigurait comme Krishna quand elle incarnait Krishna. Elle incarnait la mère cosmique. Son visage, son corps transformé. Son visage transformé. Je te posais cette question, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Il m'a répondu, prie mon fils. Après, elle a touché mon cœur comme ça. Elle a fait un petit rond comme ça. Elle m'a donné un petit peu de cendre et un encens. C'était mon premier contact. Je suis resté plusieurs jours dans l'ashram à l'époque. Il n'y avait presque rien à manger. C'était dans un ashram. J'entendais qu'il y a de quoi manger, mais il n'y avait rien. Mais maintenant, la situation est complètement différente. Il y a une immense cuisine, c'est étonnant, toute l'organisation actuelle. Il priait et répétait le nom de tous les dieux, divinités, Krishna, elle ne disait pas autre chose dans sa, dans ses paroles. Il n'y avait pas autre chose que évoquer le divin dans de multiples façons. Et le soir, elle chantait vraiment bien. Sa voix a un peu changé au cours des années, c'est normal, mais à l'époque, c'était presque envoûtant. Elle chantait, elle rentrait dans des différents états de transe. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle rentrait dans cette expérience extatique intérieure. Mais de sa bouche, jamais venu un mot qui sortait de la contexte spirituel. Et encore maintenant. Elle n'a pas fait des études. Elle est peut-être jusqu'à 9 ans qu'elle a fait ses études à l'école. Certainement, c'était bien qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études. Mais son amour pour Krishna, je l'ai transformé. Avant qu'elle devienne célèbre, elle rentrait spontanément dans son état de samadhi. L'état de samadhi, ça veut dire, voilà, elle est out. Elle est là, physiquement, mais elle part ailleurs, quand on peut pas savoir ce que c'est. Et la famille était paniquée, qu'on croyait qu'elle avait l'épilepsie. On donnait, à l'époque, pour l'épilepsie, donner un morceau de fer pour le tenir. Et lui donner un trident en fer dans ses mains. Tenez. Et puis, après quelques temps, ça passait, elle redevient normal comme tout le monde. Qu'à l'époque, il n'y a pas d'eau courante, il fallait chercher l'eau ailleurs, et elle devait partir avec un pot pour chercher de l'eau, mais elle ne revenait jamais. Elle va dans la rivière, elle rentrait dans cet état. Elle parlait de ça plus tard. Elle parle elle-même à main. Elle a déjà compris. Au-delà de visible, il y a quelque chose. Elle disait, depuis mon jeune âge, j'avais compris qu'il y a autre chose que tout ce que nous voyons. Autre chose qui est beaucoup plus réelle que tous les défilements des événements de notre champ de conscience. La science du yoga dit que personne ne perd tout ce qu'elle gagne comme clarté dans une vie. Peut-être notre vie termine dans un corps avant d'avoir tout compris. Et quand on reprend un autre corps pour continuer le chemin, et tout ce qui était compris, ça revient. C'est-à-dire le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas perdu. Peut-être on va y arriver ou pas, peu importe. Ce qu'on gagne comme clarté, ça nous suit. La Bhagavad Gita explique cela. Parce que Krishna, Arjuna demande à Krishna, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui pratique et qui disparaît avant de gagner. Il dit, il va trouver un environnement. Mais c'est comme la loi des karmas qui décide, ce n'est pas consciemment. nous allons trouver un environnement qui est propice pour la suite. Donc, il y a des individus nés déjà avec certains bagages spirituels. Je dirais, nous sommes tous porteurs de ce bagage spirituel, que nous sommes tous consciemment ou inconsciemment dans le chemin spirituel. Nous ne pouvons pas comparer, chacun fait sa route. En fonction de nos aspirations, nous rencontrons des personnes qui sont dans le chemin, qu'on apprend, on évolue, on grandit. On continue. Elle m'a eu la chance de naître en Inde. S'il était en France, certainement on aurait amené à l'hôpital. Parce que j'avais vu à quelle façon que son corps dépassait ses contrôles. Mais elle était, mais maintenant elle ne se comporte pas comme ça, en tout cas devant le caméra, devant le public. Mais à l'époque, il y avait plus de liberté parce qu'il y avait une petite communauté. Pour moi, c'était un exemple de quelqu'un qui vit cet état extatique, mais avec une incroyable liberté. Pour une femme, c'est très difficile de sortir de toutes les inhibitions. Nous, on est sous couvercle. Nous avons peur de jugement des autres. Bien sûr, on raconte beaucoup d'histoires. Elle a transformé l'eau en paille, en pudding. Elle avait fait beaucoup, beaucoup de miracles. En tout cas, pour moi, c'est le programme de miracle, c'est quand même tout ce qu'elle fait pour les autres. On peut critiquer, mais pour moi, c'est au-delà de la critique, parce que c'est énorme. Personne ne peut imaginer, en tout cas au Kerala, faire des choses telles qu'elle fait. Quand il y a eu le tsunami, le lendemain, dans le journal, c'est affiché, Amma dit qu'elle va reconstruire toutes les maisons. Mais ce n'est pas une petite chose. Toutes les maisons détruites par le tsunami. Mais certainement, c'est pas son argent. Bien sûr, c'est des dons qu'elle a tirés tellement du monde, que tellement de personnes qui donnaient. Ça, c'est un plus grand miracle qu'on peut imaginer. C'est juste. C'est pas la transformation de l'eau en paesam qui change le monde. Peut-être ça changeait les croyances de quelqu'un, mais véritablement, elle contribue pour le bien-être du monde. Juste il y a quelques semaines, elle vient d'inaugurer le plus grand hôpital de l'Inde, qui est aussi grand que l'Europe, près de New Delhi. On ne peut pas imaginer qu'elle donnait 50 millions d'euros pour le nettoyage du Gange. Il a envoyé tous ses élèves pour nettoyer le Shabarimala. C'est un lieu de pèlerinage des millions de gens qui vont. Mais en fait, on ne fait pas vraiment aucune attention et que les ordures partout dans les forêts. Il a envoyé ses élèves. C'est-à-dire l'impact, la façon qu'elle peut influencer une très très grande population. Mais elle ne réclame rien, elle ne dit pas que je soigne des malades, que j'ai des capacités particulières. Non, elle dit tout simplement, je prends des gens dans mes bras, je donne de l'amour. Il a eu un énorme succès aux États-Unis parce que les Américains n'ont jamais connu quelqu'un qui venait aux États-Unis pour prendre des gens dans ses bras, parce que les Américains, ils ne connaissent que des gens qui viennent aux États-Unis pour $2. Ils sont habitués à ça. connaît pas, mais quelqu'un qui arrive pour simplement donner de l'amour. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués à cette forme d'amour. Nous connaissons l'amour de nos parents. Ils nous possèdent. En fait, nous sommes leurs petits choux, leur petit plaisir. Le problème, c'est que les enfants sont nés dans le désir des parents. Et quand les enfants commencent à avoir leur propre désir, c'est conflictuel. Mais Ama donne un amour pur. C'est une inspiration pour le monde entier. Ça, c'est guérison. Je dirais, la plus grande contribution au-delà de toute action humanitaire qu'elle fait dans le monde, ce qu'elle donne, c'est un amour inconditionnel qu'on peut voir. On peut voir dans ses yeux. Elle arrive à regarder au-delà du masque que nous portons, au-delà de notre apparence physique. Son amour touche une partie de nous que nous ne savons pas. Pour moi, c'est une expérience. Oui, c'est possible pour nous, chacun de nous. Une personne comme Sudharmani, mais il est devenu Mata Amaranandamani, la mère du monde entier. Pour une femme, il y a deux façons pour devenir mère. Soit on fait des bébés, ou bien regarder l'univers tout entier comme son enfant. Il est possible, la porte est ouverte. Est-ce que nous sommes capables de faire ou pas? Il a pris dans ses bras 20 ou 30 millions de gens. Et quelquefois, elle fait des darshan non-stop. Ça passe plus que 24 heures non-stop. Il n'a jamais laissé une personne sans prendre dans ses bras. Quelquefois, il y a une attente. Quelquefois, il faut attendre plusieurs heures pour avoir ce petit instant de 30 secondes, même pas. Mais chacun qui va, il y a quelquefois des gens qui viennent par curiosité, comme moi aussi. Quelquefois, on ressent quelque chose, quelquefois, on ne ressent rien. Mais chacun reçoit quelque chose. Peut-être qu'ils ne vont pas ressentir quelque chose dans l'instant même. Mais à un moment donné, ça se révèle parce que nous ne connaissons pas cette forme-là. Oui, je dis, il est possible de vivre ou laisser vivre, laisser apparaître, laisser émerger cette partie de nous est capable d'embrasser le monde. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut consacrer toute notre vie? Elle n'a jamais arrêté. Elle a continué. Jamais eu une occasion. Elle sort de son chemin. Ce n'est pas comme Dalai Lama qui prend la retraite. Et chaque personne qui vient vers elle, elle offre quelque chose. Un instant. Comme dans la Bible, il y a une histoire. Le royaume des cieux, c'est comme une femme intelligente. Elle a mélangé un petit peu de levure avec des pâtes, avec du blé. Et puis, elle fait gonfler la pâte, elle a fait plein de pain avec. C'est-à-dire, toute petite chose ça peut changer la qualité de l'être humain. La majorité de nous, nous n'avons pas cette possibilité de s'ouvrir à notre propre divinité intérieure, parce que nous sommes très occupés. Nous sommes préoccupés par nos petites vies, nos préoccupations. Et qu'on n'arrive pas à porter nos regards à l'extérieur de petits cercles de l'ego. Quelque part dans notre croissance, on a laissé tomber notre divinité. Et notre travail, tu peux appeler ça travail, je dirais plutôt notre devoir, c'est d'aller chercher une partie de nous qui est capable de devenir cela. Mais si on fait abstraction à sa popularité, sa grandeur, ça c'est que des phénomènes de la société. La grandeur, il ne faut pas nous empêche de voir l'individu. Ça peut arriver. Parce que on voit en ce moment toute l'institution, toute la position, même le premier ministre de l'Inde qui vient s'incliner, toucher ses pieds. Ça, c'est que extérieur. Ça n'a pas d'importance. Applaudissement, vient ou vient pas, ça ne doit pas nous empêcher de vivre notre divinité intérieure. Oui, je dirais oui. Elle incarne. Maintenant, posez-nous cette question. Qu'est-ce que j'incarne, moi? Chacun de nous, qu'est-ce que j'incarne? Posez cette question. La porte est ouverte. Deuxième question. Je peux demander un nouveau scénario à l'univers. Est-ce que je peux lui demander de régénérer mes cartilages des hanches droite et gauche et de retrouver la flexibilité de toutes mes articulations de mon corps? Bien sûr, en y contribuant. Ce message, on en revient plusieurs fois. J'ai quelques doutes. Et je sais que si je ne le désire pas de tout mon cœur, je ne peux pas marcher. C'est naturel. Le corps change. Certainement, même Amanda Amandamayi, elle a ses propres difficultés des articulations, j'imagine. Mais quand j'avais vu une personne de 126 ans faire le yoga, je me dis, oui, c'est possible. Toutes les postures qu'il fait, la façon qu'il est, il garde toute sa tête. Oui, il mange qu'une seule fois, il mange très peu, et il est tout maigre, bien sûr. Certainement, notre corps est capable de dépasser pas mal de difficultés. Mais le corps reste quand même corps, c'est composé. Ça se décomposera. Ça, c'est naturel. Mais la force de l'esprit est considérable. J'ai rencontré un homme qui était très malade. Il a passé plus que 15 ans dans l'hôpital. Un beau matin, il se réveille, il a dit, stop, je n'irai plus voir les docteurs. Quand je l'ai rencontré, il avait 60 ans, Il a dit, depuis que j'avais pris cette décision de ne plus voir aucun docteur, de ne plus prendre aucun médicament qu'il a décidé de ne plus tomber malade. Il n'a plus tombé malade. Je pense que nous pouvons, par volonté, mais avant tout, pourquoi je veux ça? Je connais une personne, il a vécu toute sa vie pour élever ses enfants. Une fois que les enfants sont devenus indépendants, grandis, il se retrouvait, mais il était bien, hein? Il avait la bonne santé, il vivait comme tout le monde. Le jour, il a vu que sa vie n'avait plus de devoirs. Il tombait malade, il est mort. Décider pour quelles raisons que nous sommes ici. Donner une direction. Au-delà de toutes les besoins matériels, ne vivez pas, ni même pour les autres, ne vivez pas pour la famille, pour des cercles, mais vivez pour une lutte inatteignable, pour qu'on puisse vivre longtemps en bonne santé. Un but inatteignable. Qu'est-ce que c'est un but inatteignable? Notre perfection. Shankaracharya, le grand maître qu'on connaît en Inde, 32 ans. Avant 32 ans, il a fait le commentaire de toutes les Upanishads, de toutes les Vedas, tous les textes. Il a contribué. À un moment donné, il se dit, voilà, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Il a quitté son corps. Swami Vivekananda, c'est un autre exemple. Décider un objectif qui est juste. Le corps va rassembler toutes ses énergies pour contribuer. Et toute une cellule qui va comprendre qu'il y a une raison pour continuer. Donc, la force, la volonté de l'esprit, pas seulement pour les articulations. Bien sûr, corriger un petit peu nos habitudes. Prenez soin de votre corps, certainement. Mais pour la cause, là, le cœur, l'esprit, donc, psychisme, donc, nos cellules, tout va s'aligner. L'univers va nous accorder la possibilité. Et nous avons le droit. Croyez à cela. Nous avons le droit. Le vieillissement, et en réalité, c'est une création de l'esprit. Restez jeune. Mais pour une cause. Sinon, le corps ne comprend plus la raison d'être. Ça fait longtemps qu'on croyait que c'est tout est programmé génétiquement, que notre longévité. Mais maintenant, la science dit que la pensée agit sur le génome, agit sur notre ADN, agit sur la composition physiologique. Parce que nous sommes porteurs de cette force sacrée qui est en nous. Laissez un petit peu de place pour que ça se vit. La troisième question est beaucoup plus, je dirais, complexe pour répondre. Je n'arrive pas à comprendre le lien entre tout était décidé avant que je prenne la décision. Tous les événements étaient déjà présents sur d'autres plans et le karma des nos milliers de vies disparaît. Oui, sur un autre plan. Il y a plusieurs plans. Quand on vit dans notre corps, dans notre scénario personnel, nous sommes dans un plan de vie normal. Tout le monde vit comme ça. On est simple acteur. Spectateur de notre propre vie, mais on ne vit pas d'autres plans. Il y a d'autres plans. Aujourd'hui, c'est scientifiquement vrai parce qu'on est capable d'observer les cerveaux avec des appareils. Avant même que je dise oui ou non, le cerveau a décidé si je vais dire oui ou non. On peut mesurer ça. La question, c'est qui suis-je? Au premier regard, on se prend pour le corps et le psychisme derrière. Mais est-ce que nous sommes que ça? Cette recherche qui va nous amener à l'extérieur de ce scénario cosmique qui se déroule. Beaucoup des très très grandes questions, ça fait combien de temps cet univers existe? Et quand ça va disparaître, est-ce que ça va recommencer? Dans le yoga, nous parlons de Trikala, la connaissance de trois temps. Certainement, quand on vit dans notre propre plan d'existence, nous ne voyons pas le futur. Parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Une flèche, quand ça bouge vers le cible, il ne peut pas changer son destin. Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que tout est décidé devant nous? Ce que nous allons vivre, est-ce que c'est déjà décidé? Est-ce que nous avons une volonté? Je vais vous dire, oui, vous avez la liberté de choisir dans le plan que nous sommes. Mais quand on recule, qu'on sorte de l'existence, qu'on regarde tous les scénarios, non. Tout est décidé. Les deux sont vrais. Qui je vais rencontrer? Qu'est-ce qui se passe par cette rencontre? Ce n'est pas nous qui décidons. Quels sont les événements qui nous attendent dans l'avenir? Et tout le temps, nous sommes dans une forme de carrefour. De décision. Est-ce que c'est nous qui décidons? Nous avons l'impression de décider. En réalité, la faculté de la décision est contrôlée par encore une autre force. Mais une chose, c'est clair. Le fragment est destiné à rencontrer le tout, comme chaque goutte est destiné à rencontrer l'océan. C'est prédestiné. Ça ne peut pas être autre. Merci pour les questions. Je vais partager avec tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde peut poser cette question. C'est important de savoir que nous vivons dans plusieurs plans. On est très pratique. Nous voulons choisir un scénario fantastique dans ce cas. Certainement, émettez des pensées pour que l'univers fait le nécessaire. Nous avons passé du temps pour comprendre quelle façon que l'univers est à nos services. L'univers est là pour nous. Croyez à cela. C'est une croyance qui est juste parce que ça fait du bien. Souvent, nous pensons le contraire. Tout est contre nous. Nous ne voyons que des obstacles. En réalité, tous les obstacles qui se passent devant nous pour nous faire grandir, pour nous réveiller. Toutes les difficultés sont là. Regardez dans cette manière, ça va nous aider à franchir des difficultés. Et chaque fois qu'on dépasse une difficulté, ça nous donne de l'auteur. Plus de grandeur, plus de conscience. J'ai entendu une très belle histoire soufie. Je vais raconter ça rapidement. Un maître soufi avec ses élèves, c'est des moines errants, il passe de village en village, vit avec ce qu'on lui donne. Un jour, ils sont arrivés dans un village que le village leur refusait. Mais c'est pas entré. Le maître, comme d'habitude, tous les soirs, il priait. Merci mon Dieu de m'avoir donné tout ce que je voulais. Et puis, un de ses élèves dit, mais aujourd'hui, tu n'as pas le droit de prier comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a faim, nous sommes dans le froid, on n'a pas un endroit pour dormir. Il répond, aujourd'hui, c'est ça que je voulais. Je voulais sentir être rejeté. Je voulais avoir faim. Je voulais avoir soif. J'avais besoin de vivre cette difficulté. Sinon, pourquoi ça a été donné? Et quand on étudie le Samkhya, on comprend clairement l'univers tout entier au service de Purusha. Tout est pour Purusha. La conscience qui est le spectateur. Tout ce que nous vivons, peut-être nous n'avons pas assez de recul pour comprendre pourquoi, comment. Carl Gustav Jung, dans son autobiographie, il parlait: si je n'avais pas vécu ce traumatisme dans mon enfance, cette névrose, peut-être je n'aurais pas devenu ce que je suis. Quand on regarde en arrière, tous les événements s'alignent en telle façon qu'il y a, on dirait qu'il y a un maître en scène, qui a tout décidé pour qu'on arrive à ce que nous sommes. si notre étude nous permet de comprendre que tous les événements qui se présentent dans notre champ de conscience, si on peut le regarder ça pour éveiller la conscience, dans ce cas la vie, dans le sens large du terme, tout est bon, tout est bien, tout est juste. Merci pour votre écoute ce soir. J'espère que nos échanges nous apportent plus de clarté pour avancer tranquillement dans notre vie, dans l'épanouissement. Merci. Je vous invite à chanter avec moi. Inspirez profondément. Merci. À demain matin.